Votre émission de vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Suite à l'émission de la semaine dernière sur la psychologie sociale, nous avons gardé avec nous Fabien Lemoine, doctorant à Rennes 2, dans le laboratoire armoricain universitaire de recherche en psychologie sociale. Il nous explique dans cette émission en quoi consiste sa thèse et nous parle un peu plus du projet qu'il a mené pour le ministère de l'Industrie. Il sera donc question dans cette émission de pensée sociale, de construction d'opinion et de dialogisme. Fabien Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes étudiant au sein du laboratoire LOREPS à Rennes 2.
Tout à fait.
On a présenté la semaine dernière ce laboratoire avec vos deux autres collègues. Donc on a présenté durant cette émission ce qu'était que la psychologie sociale. Alors vous, à côté, il y a un courant un peu particulier qui fait partie de vos recherches, qui est la pensée sociale. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que c'est ?
Oui, alors on a beaucoup parlé des différents courants qu'il y avait la semaine passée. On n'a pas trop évoqué celui-ci, qui est pourtant tout à fait complémentaire des approches qu'on a développées la semaine dernière. En fait, la pensée sociale, c'est une approche un petit peu particulière dans le sens où elle ne va pas avoir une approche scientifique des choses. On ne va pas travailler sur la rationalité telle qu'on l'entend de manière scientifique. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la logique que les gens suivent individuellement. En fait, comprendre un petit peu ce qui finalement n'est pas logique pour tout le monde, mais logique pour eux, et ce qui va les amener à se comporter tel qu'il se comporte. Alors, par exemple, pour illustrer cette pensée sociale, on avait discuté avec Nolwenn Morisset l'année passée d'une expérience un petit peu folle, bon, qui n'est pas réalisable, hein, parce que déontologiquement parlant, ce n'est pas possible, mais où on voulait mettre en scène des individus qui sont dans une voiture et qui sont exposés de nuit à une personne qui fait du stop. Cette personne qui fait du stop, il y en a une qu'on voulait habiller en blanc, en imaginant que ça rapportait à l'histoire de la Dame Blanche. Mais enfin, il y avait tout un amorçage à préparer pour pouvoir faire en sorte que les gens soient dans cette configuration d'esprit. Mais en tout cas, voir un petit peu comment les gens se comportaient avec cette personne-là et comparer ça avec une personne qui n'est pas habillée en blanc. Et voir un petit peu si ce rapprochement un petit peu vague que l'on fait avec la Dame Blanche a un impact sur leur manière de prendre les gens en stop ou pas. Et en fait, l'idée de la pensée sociale, elle est un petit peu là, parce que dans l'idée de la pensée sociale, on ne va pas considérer que les gens sont rationnels. On va considérer qu'ils suivent une logique, certes, mais c'est une logique qui n'est pas nécessairement celle de tout le monde. Donc on va essayer de comprendre comment les logiques individuelles sont articulées, et indépendamment du côté rationnel des choses. Ce qui nous intéresse dans cette approche-là, c'est d'essayer non pas de poser des termes scientifiques sur des événements, sur des éléments. Ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de donner du sens aux choses. Or, le sens, il n'est pas nécessairement associé à des termes techniques. Dans la pensée sociale, on ne va pas utiliser les termes très techniques qu'utilisent les scientifiques pour parler d'un thème, mais on va utiliser les termes que les gens utilisent pour l'évoquer. J'ai un exemple assez parlant, je trouve, c'est quand on parle du corps humain et du fonctionnement du corps humain, les scientifiques vont être capables d'utiliser tout un tas de termes techniques qui vont leur parler, qui vont être très précis, qui vont identifier très clairement chacun des atomes ou chacune des molécules, chacune des cellules qui nous composent, et leur rôle, leur fonctionnement, etc. Or, pour le commun des mortels, c'est assez barbare comme langage, et pour la plupart des gens, ça n'a pas vraiment de sens, c'est compliqué de comprendre ça. Donc les gens ont quand même besoin de comprendre comment leur corps fonctionne. Et on considère dans la pensée sociale qu'ils vont avoir une représentation très imagée des choses. Moi, l'image que j'ai du fonctionnement de mon corps, c'est l'image que me donne « Il était une fois la vie ». C'est-à-dire ces petits bonhommes qui se baladent au milieu de mon corps et qui ont chacun un rôle bien particulier, qui chacun vont remplir une fonction, qui chacun, etc. Je vais pouvoir avoir une image de ce qui se passe dans mon corps sans passer par des termes techniques, sans passer par des représentations très précises, mais ça me satisfera. Et je vais faire avec ça. Et pour faire le lien avec mon thème de l'opinion, c'est important de prendre en considération cette approche-là, parce que finalement, si on s'intéressait uniquement au côté rationnel des choses, on passera à côté de tout ce qui est de l'ordre de la croyance et de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que certaines manières d'envisager les choses sont liées à la croyance ou à l'idéologie, mais on ne pourrait pas considérer l'impact que peut avoir ces croyances dans la construction que font les gens de leur opinion.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre thèse, de vos recherches, en quoi ça consiste ?
Alors, mes recherches, donc, c'était d'essayer de comprendre un petit peu comment se forme l'opinion, comment elle se construit. Et les deux pans de ma thèse sont, dans un premier temps, d'essayer de la mesurer, de trouver un bon moyen pour mesurer l'opinion, parce qu'on n'est pas complètement convaincu par les méthodes utilisées lors des études de sondage. En tout cas, ça ne répondait pas à notre problématique, surtout. Et puis, essayer de comprendre d'où notre opinion tire ses inspirations, finalement. L'intitulé de ma thèse, c'est l'étude dialogique de l'opinion, parce qu'on va utiliser une méthodologie spécifique, le dialogisme, et on va essayer de l'appliquer au domaine de la psychologie sociale, parce que c'est une méthode qui est issue de la linguistique, pour essayer de mieux comprendre la façon dont les gens fonctionnent lorsqu'ils émettent une opinion à propos d'un objet.
D'accord, donc quand on parle de dialogisme, c'est quoi exactement ?
Alors le dialogisme, pour faire simple, hein, c'est les dialogues qu'on entretient de manière plus ou moins consciente, c'est bien souvent inconscient, avec nos différentes références à propos d'un objet.
Donc là, vous venez de nous parler d'une des théories qui est le dialogisme, ouais. Et est-ce qu'il y en a une autre ou pas ?
Alors en fait, le travail de thèse que je réalise là, il est axé principalement sur ce qu'on appelle le regard psychosocial, qui est, à mon sens, une bonne définition de la psychologie sociale qu'on a présentée la semaine passée. Et l'idée, c'est de considérer que dans notre relation à l'objet, on va passer nécessairement par l'autre. On ne peut pas envisager quelque chose sans envisager avec cela la manière dont notre environnement va considérer cette chose-là. Si je connais des choses à propos de la Lune, c'est parce qu'on me les a apprises, c'est parce que j'ai entendu des gens en parler, c'est parce que j'ai jamais pu vérifier par moi-même ce que les gens disaient, mais j'utilisais leurs connaissances, j'utilisais ce qu'ils me racontaient pour me forger une opinion, ma propre perception de cet objet-là.
Qu'est-ce qui fait qu'une opinion est complètement différente d'une personne à une autre ?
L'opinion est en soi quelque chose de très labile. Ça va, ça vient, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre tout un tas de facteurs qui vont faire qu'on adopte ou telle opinion. Et d'ailleurs, chez un même individu, une opinion A qui sera valable à un moment donné ne sera plus valable et laissera la place à une opinion B dans un autre temps. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre les individus à propos de leur opinion ? Je ne sais pas exactement, je ne saurais pas répondre à cela exactement. Peut-être le contexte dans lequel ils se trouvent, peut-être la manière dont ils synthétisent les connaissances qu'ils ont à propos d'un objet. En tout cas, je pense qu'on s'appuie sur une base commune. Et c'est un peu ça qui va guider un peu ma thèse. C'est-à-dire que nous, on part de l'idée que lorsqu'on est en train de réagir par rapport à un objet, on dispose d'une sorte de répertoire, ce qu'on appelle le répertoire de réponse, qui nous permet d'utiliser les différentes positions que l'on connaît à propos de cet objet-là pour prendre position vis-à-vis de cet objet.
Et alors, qu'est-ce qui constitue ce répertoire de réponse ?
En fait, le répertoire de réponse, on se le construit au fur et à mesure de notre expérience. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier au fur et à mesure de nos différentes expériences, de l'expertise de tout un tas de personnes qui nous entourent. Mais des personnes de notre environnement direct, c'est-à-dire des gens de notre famille, des gens du bistrot, des gens, des copains, n'importe quoi, qui émettront un avis sur une question quelconque. Mais on bénéficie également de l'apport de tous les reportages, les médias, enfin tous les éléments qui sont dans le paysage médiatique, je dirais, reportages télévisés, les émissions de radio, tout un tas de choses, qui nous permet également de prendre position vis-à-vis d'un objet. Je vais prendre un exemple, c'est si on traite par exemple de l'affaire Strauss-Kahn, pour reprendre un truc qui a agité le monde médiatique cet été. On avait tous une opinion sur la question, alors qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui a pu approcher de près cet événement-là. Il n'y en a pas un qui était dans la chambre du Sofitel, il n'y en a pas un qui sait exactement ce qui s'est passé, mais on avait une opinion quand même sur la question. Cette opinion-là, on se l'est construite à partir des différentes opinions qu'on a entendues, que les gens avaient à propos de cet événement. Alors c'était des hommes politiques, des journalistes, enfin des gens qui sont, comment on dit, des gens autorisés, en tout cas des personnes qui peuvent émettre leur avis, et du coup qui nous servent de référence pour pouvoir traiter de cet objet-là. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en fait, ce que nous on entend à la radio, d'autres l'entendent également. Et en l'occurrence, lorsqu'on parle de l'affaire Strauss-Kahn, eh bien, on peut très bien en discuter en famille, dans un repas de famille. Et du coup, l'avis de notre famille, des personnes qui comptent pour nous, va avoir une influence également sur notre manière dont on va percevoir cet objet-là. L'affaire Strauss-Kahn. Et du coup, lorsque l'on va traiter de cet événement-là, et lorsqu'on va dire que c'est notre manière de la traiter, on va toujours dialoguer avec ces différentes interactions qu'on a eues avec cet objet-là auparavant, de manière à pouvoir construire notre propre synthèse de la question, et puis émettre une opinion à propos de l'affaire Strauss-Kahn.
Donc vous, durant votre thèse, vous avez travaillé sur des thèmes en débat, et notamment sur l'exemple des ondes électromagnétiques.
Oui, tout à fait. On avait choisi ce thème-là parce qu'à l'époque, c'était un thème qui revenait régulièrement dans les journaux, où les gens trouvaient ça très pratique parce que ça permettait tout un tas d'applications techniques, mais qui étaient très embêtés par les effets des ondes électromagnétiques. C'était un thème qui, à nos yeux, permettait de collecter plusieurs opinions différentes. Donc c'était intéressant pour cela.
Juste, les ondes électromagnétiques, on le rappelle, c'est ce qui permet par exemple d'avoir le Wi-Fi sur son,
voilà, tout à fait,
sur son ordinateur.
Ou sur le téléphone, enfin ce qu'on utilise avec le téléphone.
Et alors comment s'est déroulé ce travail, enfin cette enquête ?
Alors dans un premier temps, on a commencé en laboratoire. Après coup, on va travailler avec une entreprise, mais dans un premier temps, on a commencé en laboratoire et on a essayé de travailler sur la manière dont les gens pouvaient envisager les ondes électromagnétiques. On a essayé en fait de s'intéresser à leur opinion, mais pas uniquement à ce qu'ils vont nous en dire en leur posant la question, parce que tout le monde est capable de répondre à ce type de question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour ? Vous êtes contre, ils vont vous donner une réponse, mais on ne sait pas vraiment quoi faire de cette réponse-là. Ce qui fait qu'on a, on a essayé de s'intéresser plutôt à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le répertoire de réponses. On a essayé de comprendre sur quoi ils allaient axer leur opinion. On a essayé de comprendre ce à partir de quoi ils construisaient finalement leur représentation de cet objet-là. Et donc pour ce faire, on a commencé par demander aux gens de nous dire tout ce qu'ils connaissaient, toutes les opinions qu'on pouvait avoir à propos des ondes électromagnétiques. Alors on les a mis dans une situation, on leur a proposé de s'imaginer face à un débat télévisé. Alors, bien souvent, citer ça se discute, histoire d'avoir le truc un peu plus imagé, mais l'idée, c'était surtout de les mettre dans cette situation-là, deux présentateurs qui allaient présenter finalement les différents intervenants de son débat, et ces intervenants présenteraient à chaque fois les différentes positions qu'on pouvait avoir à propos des ondes électromagnétiques. Cette première étape-là, donc, elle était tout au début de ma thèse. Il se trouve qu'on a eu l'occasion de répondre à un appel d'offres et un projet proposé par la DGCIS, donc le ministère de l'Industrie, pour faire simple, qui proposait un travail sur la mise en place d'une technologie RFID. Alors la RFID, c'est un truc qui va remplacer les codes-barres. En gros, on en trouve déjà beaucoup. C'est ce qu'on trouve au métro à Rennes, par exemple, quand on passe notre carte. C'est une petite puce RFID qui est là-dedans. Et en gros, c'est un code-barre avec énormément d'informations dedans. Et ça utilise également des ondes électromagnétiques, ce qui me ramène un peu à mon point de départ, c'est-à-dire que cette entreprise-là cherchait à comprendre comment ses salariés allaient accepter l'arrivée de cette nouvelle technologie dans leur process de travail. On a mené une étude de terrain là, pendant 2 ans, qui se termine en ce moment d'ailleurs, on est dans les rapports finaux. On est en train de décortiquer un petit peu la manière dont les gens d'abord se sont représentés les choses avant qu'elles arrivent, avant que la nouvelle technologie soit installée. Puis on a essayé de comprendre un petit peu comment ils se la représentaient juste après qu'elles soient installées. Et encore une fois, on en est retourné les voir pour savoir comment ça se passait 6 mois après l'installation. Et là, le but, c'était d'essayer de comprendre comment ce répertoire de réponses qui les amenait à construire leur opinion allait évoluer au fur et à mesure de leur appréhension de l'objet. Comment ils allaient finalement intégrer les réponses des uns et des autres dans leur façon d'envisager les choses, comment leur expérience pratique avec l'objet allait interférer avec leur manière de se représenter cet objet de la RFID, comment ça allait faire disparaître certaines réponses, comment ça allait en faire apparaître d'autres, etc. etc.
Une petite pause s'impose, on écoute tout de suite Born in Alaska avec le titre Dark Winters. Somewhere, radiance of the sun. Always look it from the stars.
Through me.
De retour dans le Labomatique avec Fabien Lemoine, le doctorant revient sur les résultats obtenus par son enquête sur le débat des ondes électromagnétiques.
Les réponses du salarié de l'entreprise ont été satisfaisantes. Je serais un peu moins catégorique par rapport à la recherche de laboratoire. En fait, le problème auquel on a été confronté dans notre recherche de laboratoire, c'est qu'on était face à des personnes qui finalement n'étaient pas très investies par cette question-là. Ce n'était pas finalement un objet de débat si important pour eux, ce qui fait qu'on observait très peu de variations dans leurs réponses. Et en gros, ce qu'on a observé, c'est une réponse pour, une réponse contre. Et ça n'allait pas beaucoup au-delà. On avait une réponse entre les deux qui allait plus ou moins vers le pour, plus ou moins vers le contre. Mais globalement, ce n'était pas très riche quoi, dans ce qu'on observait. Et finalement, on était un petit peu embêté par cette question de l'investissement. Mais d'un autre côté, notre objectif principal dans le laboratoire, c'était de construire le matériel qui nous permettait de mesurer l'opinion. Donc finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouvait quand même. Et puis, je disais que j'étais quand même satisfait parce que dans notre étude de terrain avec les salariés qu'on a pu rencontrer pendant 2 ans, là, pour le coup, on était face à des personnes qui étaient très investies. Ce qui fait qu'on a des variations de réponses qui sont beaucoup plus importantes et des niveaux d'interprétation qui sont complètement différents selon les personnes. Parce qu'ils ne vont pas avoir le même rapport à l'objet, parce qu'ils ne vont pas l'utiliser de la même manière, parce que tout un tas de raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais qui nous permettent finalement de voir que dès lors que les gens sont davantage investis dans ce qu'ils sont en train de traiter, ce sur quoi on leur demande leur opinion, on a un panel de réponses, un éventail de réponses beaucoup plus important et assez diversifié, assez varié. Les gens connaissent les réponses qu'ils ne partagent pas et savent les restituer de manière plus ou moins exacte, mais ils sont capables de le faire. Donc ça veut dire que dans leur manière d'appréhender les choses, ils disposent de ces réponses-là. Ils sont obligés de prendre position vis-à-vis de ces réponses-là. Quand je disais tout à l'heure que le dialogisme, c'est la question du dialogue avec les références que l'on a, et bien les gens, quand ils prennent position par rapport à la RFID, en l'occurrence, ils vont discuter, ils vont entretenir un dialogue avec chacune de ces positions dont ils disposent dans leur répertoire. Ainsi, les réponses tout à fait absurdes, idiotes ou aberrantes, je sais pas, du style « l'RFID, c'est un objet du diable », par exemple, auquel je sais pas, certains n'adhéreraient pas du tout, et bien ils vont quand même devoir la traiter et prendre position vis-à-vis de cette position-là. Le défaut qu'on a lorsqu'on parle de l'opinion, c'est qu'on essaie d'arrêter quelque chose de stable, alors que ça ne l'est pas. C'est pas quelque chose de stable, l'opinion. C'est quelque chose de très labile, qui bouge beaucoup, qui va aller dans un sens, qui va aller dans l'autre, qui va être très dépendant des circonstances dans lesquelles on se trouve. On parlait la semaine passée là, du 1000 grammes et des travaux sur l'obéissance, qui étaient très dépendants justement des différents éléments du contexte. L'opinion, c'est un petit peu pareil. On va avoir tendance à être très dépendant de ce contexte-là. Et du coup, c'est compliqué d'essayer d'en faire une photo fixe qui va représenter quelque chose. C'est un peu le défaut d'essayer d'arrêter l'idée d'une opinion fixe et d'essayer de trouver qu'est-ce que pensent les gens à propos de ça, parce que ce sera vrai à un moment, mais ça sera peut-être pas vrai 5 minutes plus tard.
Il y a différentes méthodes qui existent pour obtenir l'opinion d'une personne. Je pense notamment aux questionnaires et aux entretiens. Est-ce que la méthode que vous avez utilisée, elle vous a satisfait ?
Alors, elle est satisfaisante dans la mesure où on arrive à avoir un champ beaucoup plus large de réponses. Et que du coup, on a une vision un peu plus large également sur les possibilités de changement que les individus ont. C'est-à-dire que dans les méthodes qui sont utilisées traditionnellement, on va s'intéresser à la réponse finale des individus. Or, on a des études qui montrent que... l'étude, elle parle de la façon dont les gens répondent à un questionnaire. On leur demande de répondre à un questionnaire tout simple. Et on leur a demandé ensuite de répondre au même questionnaire, mais d'une manière différente. Et ça, 5 fois de suite. Et ensuite, on leur propose les 5 questionnaires qui sont remplis, de manière différente, le 5e questionnaire, et on leur demande de choisir laquelle est leur préférée. Et il s'avère que 2 fois sur 3, ce n'est pas la première réponse qui est choisie. Donc, on peut s'interroger sur l'intérêt qu'on porte à cette première réponse lorsqu'on cherche à avoir l'opinion des gens à propos de quelque chose. Ce qui fait que notre approche à nous, c'était pas essayer de savoir ce que les gens préféraient comme réponse au moment où on leur posait la question, mais plutôt d'essayer de savoir sur quoi ils s'appuyaient. Du coup, en cela, la méthode qu'on utilise est particulièrement satisfaisante parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large sur ce que les gens pensent et sur ce que les gens ont à leur disposition pour juger d'un objet. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on peut arriver à montrer quelles sont les préférences des gens à un moment donné. Par exemple, dans mon étude dans l'entreprise, justement, j'ai pu, à chaque étape de mesure, évaluer la structuration de leur opinion. Quels sont les éléments qui sont mis en avant au moment où je leur pose la question ? Et du coup, on voit des différences dans les évolutions. On arrive à mieux les cerner. Et on voit que finalement, certaines opinions qui sont existantes mais qui ne sont pas mises en avant à T+1, par exemple, le seront dans T+2. Et du coup, c'est intéressant de voir cette relation qu'il y a entre les différentes étapes.
Donc la méthode utilisée dans l'entreprise, c'était des questionnaires ?
C'était des questionnaires avec un peu la même approche. On leur demandait de donner toutes les positions qu'ils connaissaient au sein de l'entreprise à propos de la RFID. On essayait de les faire associer ces idées-là à des personnes, de manière à voir un petit peu d'où ils sortaient ces idées-là, ou à qui les associaient. Et on a essayé également de s'intéresser à ce qu'on appelle les autrui informels, c'est-à-dire pas des personnes qui font partie nécessairement de l'entreprise, ça peut être des gens de leur famille, des amis, avec qui ils ont pu en discuter pour savoir un peu ce que les amis leur apportaient comme opinion.
Donc là, dans la suite de votre thèse, vous allez être amené à vous intéresser à un autre sujet, je crois, qui Absolument. Est le mariage homosexuel.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez déjà commencé? Et si oui, où est-ce que vous en êtes?
Alors, non, pour l'instant, l'objectif final reste de traiter de l'opinion avec cette approche-là, cette méthode du répertoire de réponse.
Et qu'est-ce qui va différer au niveau des méthodes que vous allez utiliser par rapport à celles sur les ondes magnétiques?
Alors en soi, la méthode ne va pas beaucoup changer. On va changer le mode de recueil de données dans la mesure où dans les précédentes études, on a travaillé avec des questionnaires, des entretiens ou des semi-entretiens, semi-questionnaires, c'était un peu les deux. Alors que dans la prochaine étude, on travaillera dans ce qu'on appelle les focus group, c'est-à-dire des personnes qui discutent entre elles et dont on enregistre toute la conversation pour pouvoir un petit peu voir comment les conversations évoluent, d'où elles partent, pour voir comment elles arrivent à l'objectif, enfin au questionnaire qu'on a à la fin. La particularité de cette prochaine étude, là, sur le mariage homosexuel, c'est qu'on veut s'intéresser cette fois-ci à des personnes qui sont investies dans leur objet d'étude, dans l'objet d'étude qu'on mesure. On va pouvoir essayer de maîtriser les variables et s'intéresser à des personnes qui sont particulièrement investies dans la question du mariage homosexuel, puisqu'on va essayer de travailler avec des personnes qui sont militantes pour cette cause homosexuelle. Ce sera le plus simple, je pense. En tout cas, ça devrait nous permettre d'avoir des résultats un petit peu différents de que ceux qu'on avait pu observer en laboratoire tout au début.
Et donc tout ça est censé se passer durant une réunion?
Voilà.
D'accord.
Dans des petites réunions. Alors, c'est difficile d'en parler parce que je n'ai pas encore tout à fait terminé le protocole. Donc pour l'instant, on est encore en phase de préparation. Et puis, je ne voudrais pas trop dévoiler les choses avant d'avoir passé les focus group. A priori, ce sera plusieurs petites réunions comme ça, de 4-5 personnes de discussion, où on demandera aux gens de parler du mariage homosexuel.
Donc finalement, le thème en soi, il n'est pas si important que ça?
Le thème, c'est un accessoire. C'est un moyen de vérifier les théories qu'on met en avant. Il faut qu'il soit suffisamment approprié pour mettre en lumière les choses sur lesquelles on travaille. Mais il ne faut pas non plus qu'ils viennent biaiser tous nos résultats et qu'on observe nos résultats que avec ce sujet-là. Bon, après, l'avantage d'avoir utilisé plusieurs objets d'études, c'est que du coup, on va pouvoir comparer les résultats les uns avec les autres et puis en tirer des généralités, quoi.
Et est-ce que toutes ces expériences vous permettent à vous d'affiner votre opinion sur certains sujets?
C'est compliqué. En fait, ça me permet de mettre des mots sur certaines interactions que je peux avoir avec les gens. C'est-à-dire que lorsque je présente une opinion, je vais avoir plus tendance à penser à la manière dont j'avais recueilli cette information-là. Alors qu'avant, peut-être pas, en tout cas beaucoup moins. Mais c'est difficile parce que c'est souvent des processus inconscients, ce qui fait qu'on ne les repère pas de manière consciente, par définition. Et puis c'est souvent après coup que l'on fait l'analyse, pas avant.
Bah merci beaucoup.
Bah de rien.
Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.